Chapitre 28. Le globe lumineux brandi devant lui, Richard entreprit de descendre l'escalier dépourvu de rampe. Avec la terre et le schiste tombés sur les marches, l'exercice se révéla à la fois difficile et périlleux. Plus d'une fois, le sourcier dut s'arrêter et nettoyer de la pointe du pied une marche afin qu'elle ne soit plus glissante. L'escalier finit par déboucher sur le seuil d'une pièce obscure où l'air empestait l'humidité. Grâce à la lumière du globe, Richard distingua une porte de pierre dépourvue d'ornements. La seule issue visible et qui permettait simplement d'entrer dans l'étrange pièce vide au milieu de laquelle trônait ce qui paraissait être un gros bloc de pierre.
« Où sommes-nous donc ?»
demanda Callan.
« Je n'en sais rien. Et ça ne me rappelle rien de connu. Tu crois que ça peut être une pièce de rangement ?»«
Une pièce de rangement ? Inaccessible comme ça, ce n'est pas très logique. »«
Tu as raison, » concéda Richard. De fait, à quoi aurait servi une pièce de rangement coupée de tout?
Quand Richard avança, une série de globes lumineux s'allumèrent. 4 sphères, très exactement, constata le sourcier quand il eut fait le tour du gros bloc de pierre. L'intensité de leur lumière baissait dès qu'ils s'en éloignaient, mais la clarté se révéla largement suffisante pour une inspection en règle de la pièce. À quoi pouvait-elle avoir servi? Et à qui? Au début, Richard ne s'intéressa guère au monolithe central, probablement un bloc surnuméraire oublié là, à la fin de la construction. Sa position dans l'espace, au centre exact de la pièce, paraissait étrange pour un élément inutile, mais malgré tous ses efforts, le sourcier ne parvint pas à imaginer quelle pouvait être sa fonction. Des flocons de neige venus de l'escalier dérivaient dans les colonnes de poussière soulevées par Richard et Callan. À l'extérieur, la tempête n'était pas tout à fait finie, mais le curieux sanctuaire était hors de portée de ses bourrasques. À la lueur des globes lumineux, les flocons ressemblaient à des lucioles. Une rapide inspection confirma que la pièce n'avait pas d'autre porte. Aucun escalier en colimaçon n'en partait, et il n'y avait pas l'ombre d'une ouverture, comme dans une tombe. Pour une raison qui lui échappait encore, cet endroit donnait la chair de poule à Richard. Que penser d'un lieu délibérément conçu pour être scellé et oublié, surtout quand il était parfaitement vide?
« Richard, » souffla Callan, « cet endroit a quelque chose de terrifiant. »«
Peut-être parce que c'est un cul-de-sac. L'escalier que nous avons emprunté est le seul moyen d'y accéder. »«
Tu as peut-être raison. Je détesterais être coincé dans ce trou à rats où personne ne me retrouverait jamais. Pourquoi avoir scellé cette pièce comme une tombe ?»
Richard secoua la tête en signe d'impuissance.
Il n'aurait pas été surpris de trouver des ossements sur le sol, mais ce ne fut pas le cas. Dans les sous-sols du palais, il y avait des tombes, mais le jardin de la vie était situé au tout dernier niveau. De plus, les dernières demeures des morts, souvent somptueuses, étaient destinées à honorer leur mémoire. Ce trou à rats, comme disait Callan, n'avait rien d'un lieu de recueillement. Regardant plus attentivement, Richard vit quelque chose au pied du mur du fond. Un bloc de pierre mal aligné, peut-être, et qui faisait une saillie. En approchant la sphère devant lui, Richard constata qu'il s'était trompé. Tout au long du mur, des petites bandes de métal couvertes de poussière étaient proprement empilées. Richard se baissa, en prit une et l'examina. Un peu plus longue que son médium, la curieuse bande était assez souple pour qu'il puisse la plier sans effort. Tout était identique, et il devait y en avoir un nombre incalculable, car la saillie faisait en réalité toute la longueur du mur. Richard posa la bande de métal sur sa pile et se releva. « Il n'y a rien de gravé dessus, » dit-il.
« De simples bandes de métal. »«
Il y en a sur presque tout le périmètre de la pièce, » dit Callan. « Ça nous fait des dizaines de milliers de bandes, voire des centaines de milliers. À quoi servent-elles et pourquoi sont-elles inhumées ici ?»«
On dirait qu'on les a oubliées. »«
À moins qu'on ait voulu les cacher. »«
Pourquoi dissimuler ainsi de banales bandes de métal ?»
Incapable de répondre, Richard regarda autour de lui en quête d'éventuels indices. Mais cet endroit échappait à toute analyse. Du bout d'une botte, il sonda le sol. C'était de la pierre sous une épaisse couche de poussière due à l'effritement des murs. Bien qu'il y eût un dôme au-dessus de la curieuse pièce, son plafond était parfaitement plat. Un faux plafond en plâtre, à l'origine, supposa Richard. Mais avec le passage du temps, on ne faisait plus la différence avec les murs, car toutes les surfaces intérieures avaient noirci. Si on oubliait les bandes de métal et le monolithe, l'endroit n'avait rien de remarquable. Enfin, si,
et il y avait sa configuration. Si le sol du jardin de la vie ne s'était pas écroulé, il n'y aurait eu aucun moyen d'accéder à ce tombeau sans sépulture. Sans un accident hautement imprévisible, la pièce serait restée inviolée pendant des millénaires et des millénaires. Tandis que Callan faisait courir une main sur les murs à la recherche d'inscriptions ou du mécanisme d'un passage secret, Richard se concentra sur le monolithe carré placé au centre exact du faux sanctuaire. Très curieusement, le dallage s'interrompait autour du bloc, en conséquence entouré d'une étroite bande de terre. Des douves minuscules, aurait-on dit. Le monolithe arrivait environ à la taille de Richard. Si sa femme et lui avaient tenté d'en faire le tour avec leurs bras, ils n'auraient pas pu joindre les mains. Richard se demanda une nouvelle fois ce qu'était ce monolithe et à quoi il pouvait bien servir. Alors que des flocons de neige dérivaient toujours autour de lui, il s'accroupit, le globe lumineux dans une main, et passa l'autre sur un des côtés du bloc. Le monolithe n'était pas en pierre, comme il l'avait cru, mais en métal. Le sourcier gratta la couche de poussière pour mieux voir de quoi il s'agissait. La rouille et la saleté modifiaient l'aspect du métal, le faisant ressembler au granit des murs, mais ce n'en était pas un, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. « Callan, viens un peu voir !» appela Richard. L'inquisitrice tourna la tête. « Qu'as-tu trouvé ?» Richard tapa du poing sur le bloc. Le son lui apprit que l'étrange objet doté de parois très épaisses était creux. « Ce monolithe est en métal. Et regarde donc ça !» Richard leva un peu le globe lumineux pour que sa femme puisse voir la surface qu'il avait nettoyée. Puis il désigna une petite fente qui courait verticalement sur quelques pouces à partir du bord supérieur du faux bloc. Plusieurs bandes de métal y étaient insérées. Callan en retira une et l'étudia attentivement. À première vue, Richard ne distingua aucune marque comme sur les autres bandes stockées le long des murs. Intrigué, il nettoya une plus grande zone du curieux monolithe. « Il y a une sorte d'emblème sur ce côté du bloc, » annonça-t-il. « Je n'arrive pas à voir ce qu'il représente. » Avec un bruit sourd qui fit trembler le sol et sursauter les deux époux, de la lumière jaillit du centre du plateau supérieur du bloc de métal. De la bande de terre qui entourait le monolithe s'élevèrent de fines colonnes de poussière. D'instinct, Richard et Callan reculèrent d'un pas. « Qu'as-tu fait ?» demanda la jeune femme. « Je n'en sais rien. J'essayais d'éliminer la rouille et la crasse pour mieux voir le symbole. » Un bruit métallique monta des entrailles du monolithe. Un grincement de fer qui frotte contre du fer ou quelque chose d'approchant. Comme si de gigantesques rouages se mettaient en mouvement, le son gagna en intensité, à croire que le bloc s'éveillait à la vie ou en tout cas à l'existence. Ignorant que faire, les deux époux reculèrent un peu plus. La lumière émise par le monolithe prit soudain une couleur ambrée. Richard vit alors qu'une lueur sortait d'une petite ouverture de l'autre côté du bloc. En faisant le tour, il entreprit de nettoyer le plateau supérieur qui était peut-être bien un couvercle. Il mit bientôt au jour une autre fente, large d'une dizaine de pouces et recouverte d'une vitre qui s'insérait parfaitement dans la surface métallique du plateau. Malgré l'épaisseur du verre et la crasse qui l'opacifiait, Richard parvint à percevoir les entrailles de l'énigmatique bloc de métal. Une combinaison de rouages, de manettes et de courroies de transmission. Des dizaines de pièces mobiles venaient d'entrer en action dans ce qui ne pouvait être qu'une machine très compliquée. Certains butoirs ou certains axes étaient à peine plus grands que l'auriculaire de Richard. Les plus gros, qui commandaient des composants énormes, devaient peser des centaines de livres. Les rouages correspondants étant sans doute une dizaine de fois plus lourds. Le diamètre de certaines roues dépassait la taille du sourcier, chacune de leurs dents mesurant un bon pied de long. L'infrastructure métallique nichée à l'intérieur du monolithe était impressionnante par sa taille et sa complexité. Toutes les pièces de l'impensable machinerie étaient attaquées par la rouille. En se remettant en mouvement, les rouages dont les dents frottaient les unes contre les autres subirent une sorte de polissage naturel. La rouille accumulée au fil des siècles se détacha du métal, formant à l'intérieur du bloc une sorte de brouillard rouge. Les yeux plissés, Richard tenta en vain d'apercevoir le fond du monolithe. À travers la brume couleur rouille, il aperçut d'autres rouages en mouvement au-dessus de ce qui semblait bien être des rouages en mouvement. À croire que ces mécanismes s'empilaient sur une hauteur insondable.
Richard s'écarta afin que Callan puisse regarder à travers la partie vitrée. Ce faisant, il découvrit une autre fente sur un côté et légèrement à gauche du hublot. Le sourcier s'agenouilla et constata qu'il s'agissait d'une fente identique à la première. Quelques bandes de métal y étaient engagées.
« Richard, regarde !»
s'écria Callan en désignant le plafond. La lumière qui jaillissait du monolithe projetait un symbole sur le faux plafond plat. Et cet emblème tournait au rythme des rouages du monolithe. Regardant par le hublot, Richard vit que les énigmatiques mécanismes perçaient des trous dans des plaques de métal afin de produire de manière composite le symbole qui se dessinait au plafond. D'autres rouages faisant tourner les plaques superposées assuraient la rotation de l'emblème.
C'est le même symbole que sur le côté du bloc.
D'où vient la lumière ?
Demanda Callan.
Elle ressemble beaucoup à celle que produisent les globes lumineux.
Richard fit le tour de la machine, la débarrassant de la saleté accumulée pendant son long sommeil. Sur chaque côté, il découvrit un emblème identique à celui qui tournait au plafond.
Par les esprits du bien, soupira-t-il lorsqu'il reconnut le symbole.